Pêche, est en train de manger une bonne cuisine ardéchoise, sans doute notre bon président. Merci à votre émission, elle est superbe.
J'ai écouté l'émission sur Marina Leda. Bon, c'est pas la première fois que j'entends, mais là je me dis il va falloir que ça se diffuse dans les collèges. Et ben moi je vais le proposer au prof d'espagnol de ma fille. Et j'espère qu'elle va accepter. Allez, ciao.
Ah, Marina Leda. Marina Leda et sa démocratie directe. Pourtant, on nous dit que la démocratie, c'est le suffrage universel. Alors, sûr d'être de bons citoyens, on vote. Mais une fois qu'ils sont élus, ils font bien ce qu'ils veulent. Rien ne les en empêche. Presque rien ne les limite. Ils seront pas réélus. Pas grave. Avec l'alternance, il suffit qu'ils attendent leur tour et dans l'intervalle, députés, maires, pantouflages, etc., etc. Pas si mal les lots de consolation. Après 200 ans de suffrage universel, on continue à voter. Et nos gouvernants, quels qu'ils soient, ils continuent à nous mener en bateau. En faisant le bilan, on constate que les seules vraies avancées, attention, je parle pas des cacahuètes qui laissent tomber pour qu'on se tienne tranquille. Les seules vraies avancées sont pas venues du vote, des élections, mais de l'enrichissement généralisé dû au pétrole et des contestations, de la rue, d'un rapport de force direct entre le peuple et ceux qui l'a élu. Et ça, c'est pas jouable en permanence. Vous me direz qu'ailleurs c'est pire, et le plus grave c'est que c'est vrai. Et ça sert bien d'épouvantail pour nous faire peur, nous empêcher de penser.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Concernant la Corée du Nord, en effet, nous avions fait avec Guy Van Til une série de reportages sur la frontière entre la Chine et la Corée du Nord, il y a déjà quelques années, mais je pense que vous pouvez facilement retrouver ces reportages sur le site là-bas.org, là-bas.org, vous devez les retrouver facilement. Et puis, très bonne idée de faire étudier notre émission Marina Leda en cours d'espagnol, au moins, histoire de vérifier si Antoine Chao est un si bon traducteur que ça. Allez-y, les profs d'espagnol, trouvez les erreurs de traduction de notre Antoine et puis surtout admirez son talent et sa rapidité. Aujourd'hui, un grand scoop pour les auditeurs chéris que vous êtes. On a découvert qu'il y a d'autres intellectuels en France que Bernard-Henri Lévy. On sait avec quel admirable courage les grands médias français soutiennent et s'efforcent de faire connaître ce grand intellectuel méconnu et si stigmatisé qu'est Bernard-Henri Lévy, mais aussi incroyable que ça puisse paraître, il y a d'autres intellectuels en France. Ainsi, André Gorz. André Gorz, qui connaît André Gorz? Il est mort en 2007, il était journaliste, écrivain, essayiste, il fut l'ami de Jean-Paul Sartre, et il est surtout considéré comme le fondateur de l'écologie politique. Alors, on a parlé de Fukushima hier, on évoque beaucoup actuellement la sortie du nucléaire, 2011 a vu le retour des questions d'énergie et d'environnement chez nous, et pas seulement chez nous, et tous les débats font référence à l'écologie politique. Mais quel rapport avec les idées subversives d'André Gorz, pour qui l'écologie politique entraîne nécessairement une rupture radicale avec le capitalisme? Grande question. Réponse aujourd'hui à partir d'une émission, d'une série d'émissions produite par nos collègues de France Culture en 1991, à voix nue, avec André Gorz et avec Christophe Fournel, qui fut un des amis d'André Gorz et qui va nous éclairer dans cette émission préparée par Franck Adhérer. André Gorz ou la sortie du capitalisme, aujourd'hui donc première partie. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, Johan de Bordeaux. Bonjour les AMG, bonjour Daniel et plus particulièrement bonjour François Ruffin s'il écoute ce répondeur. Voilà, donc je tenais personnellement à appeler et à lui dire merci pour le livre qu'il a écrit. Voilà, j'ai acheté le livre suite à son émission et quel bonheur de pouvoir lire un livre comme ça qui dit beaucoup, beaucoup de choses, des choses simples certes, mais fallait-il encore les écrire et les mettre en forme. Donc super, voilà, donc je ne sais plus quoi dire, mais encore merci et encore merci.
Bonjour Daniel. Donc voilà, on habite en yourte avec mon mari depuis un an et demi, bon, pour différentes raisons, hein, on n'avait pas assez d'argent, pas assez de fiches de paye importantes pour reprendre une location. On est dans une région très très touristique, donc tout vaut super cher, c'est en 10 ans, on peut carrément plus loger, quoi. Donc on s'est mis en yourte sur des terres agricoles qui nous appartiennent, on y fait du maraîchage, on a plein d'autres projets, entre autres de faire de l'élevage de poules, de faire du pain, enfin voilà. On est un peu dans tout ce trip-là. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau courante, mais c'est un choix, et puis on est très bien comme on est, on vit avec peu et ça va. Ça se passe pas trop mal avec les habitants du village, parce que bon, ben, on les dérange pas, hein. En plus on n'est pas visible ni rien, et puis on est, voilà, ça se passe plutôt bien. Par contre, avec Madame le maire, ça se passe absolument pas bien du tout. Bon, elle a pas trop osé encore nous assigner en justice, mais enfin elle a tout fait pour vraiment y arriver. Quand même récemment, elle nous a envoyé 2 huissiers... 4 gendarmes, un serrurier avec l'ordre du tribunal de constater tout ce qui était construction, etc. Donc qui sont repartis un peu bredouilles. Mais bon là, son dernier truc là qu'elle a trouvé ce matin, c'est qu'elle nous refuse l'inscription sur les listes électorales. Donc j'avais fait la demande. Et là ce matin, par un procès verbal, sous prétexte, différence d'adresse entre la domiciliation réelle et les justificatifs fournis. Alors ça c'est normal effectivement, puisqu'elle refuse qu'on soit domicilié sur là où on habite. Donc forcément, nous, on a comme adresse officielle, dans le même village, l'adresse qu'on avait avant. La propriétaire est complètement d'accord, elle comprend bien notre problème, donc c'est là qu'on reçoit tout notre courrier officiel. Ben voilà, tout simplement, quand on est un peu pauvre, quand on vit en yourte, quand on vit différemment, apparemment, on n'a même plus le droit de voter aux élections présidentielles ou autres. C'est comme si j'étais une criminelle, c'est comme si j'étais en prison, je sais pas. Je crois qu'on enlève les droits civiques à des gens qui ont vraiment fait des grosses conneries. Bon, ma grosse connerie, je sais pas ce que c'est. Ciao, bisous.
Bonjour à toutes et à tous. En raison de cette fameuse trêve des confiseurs, le Café Repère de Tours se réunit une semaine plus tôt, donc ce soir, au Delice Café chez Arnaud à 20h. Voilà, voilà, salut fraternel et à bientôt.
Bonjour à tous. Information du journal télévisé de France 2 ce mardi 20 décembre. Un homme dort dans une cabine téléphonique à Paris par -4. Un autre achète une côte de bœuf à 450 € aux enchères. Cherchez l'erreur. En attendant, ben, je vous souhaite quand même de bonnes fêtes à tous. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.
Bonjour Daniel. Bonjour à tous. Ici, c'est le Café Repère de La Rochelle. Notre prochaine rencontre, ce sera ce vendredi 23 décembre. Thème de la soirée, la libre parole. À partir de 19h, comme d'habitude, à la petite marche. À bientôt.
Salut à tous. C'est pour vous dire qu'il n'y aura pas de repère au mois de décembre à Tourette dans le Var, parce que comme on a l'habitude de le faire le dernier vendredi de chaque mois, ça va tomber en plein milieu des fêtes. Donc il n'y en aura pas, on se retrouvera fin janvier. Et puis bah, c'est l'opportunité pour tous les gens qui sont venus en 2011 au repère de dire qu'on pense à eux, qu'on les embrasse et qu'on a hâte de se retrouver fin janvier tous ensemble à tchatcher. On ne sait pas encore le thème. Une petite anecdote aussi, il se trouve que dans le sud-est, on est en train de regarder un petit peu les plans locaux d'urbanisme pour savoir ce qu'ils font de nos terres agricoles. Et lors de rencontres qu'on a eues à propos du PLU, donc du plan local d'urbanisme de Callian, on a appris un nouveau terme, c'est l'imperméabilisation des sols. Quand on vous parle d'imperméabilisation des sols, c'est pas qu'on prend des mesures contre les risques d'inondation. Non, non, ce sont les zones qui sont urbanisées. Quand elles sont urbanisées, on considère qu'on a imperméabilisé les sols. Et pour tous les gens qui, sur Nice, ont fréquenté un temps l'atelier de la lanterne, qui pendant 10 ans... à amener un petit peu de subversivité et d'alternativité sur Nice, eh ben vous avez le bonjour de Sam et Brigitte. Ciao, vive, portez-vous bien.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas si j'y suis. André Gors, un penseur pour le 21e siècle avec Christophe Fourel. Flight number 2,
arriving from New York. Je n'ai pas les moyens constitutionnel, si vous voulez, psychique, spirituel, je n'ai pas les moyens pour avoir une volonté de puissance. Sauf le pouvoir que vous donne la contestation. J'estime d'ailleurs que le rôle des intellectuels, au sens traditionnel du terme, pas au sens que ça a pris d'aujourd'hui, que la mission des intellectuels, c'est de contester. Le radicalisme dans la pensée consiste dans la contestation radicale. Mais la contestation radicale a besoin de critères.
Dans cet extrait, on a à la fois une question et une réponse. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu cette voix plus souvent ? Mais on a la réponse parce que peut-être trop contestataire et trop radical. Cette voix, c'est celle d'André Gors, qui est un journaliste et philosophe, penseur pour le 21e siècle, c'est le titre d'un livre que vous avez dirigé, Christophe Fourel, et qui nous donne l'occasion d'évoquer cet homme, ce penseur, et sa pensée. Pourquoi ? Parce que récemment, il y a eu une suite d'événements, les questions du gaz de schiste, la catastrophe de Fukushima, qui nous a reposé la question du nucléaire, des questions d'énergie, etc. Si bien que l'écologie est revenue au premier plan, et ça nous a ramené à une question, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit écologie ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot écologie ? Parce qu'après tout, le maréchal Pétain disait « la Terre ne ment pas », Hitler était végétarien, faut quand même jamais oublier. Je pense que Marine Le Pen a sa petite idée sur l'environnement, tout comme Nicolas Sarkozy avec son Grenelle de l'environnement. Or, André Gors est lié à l'idée d'écologie politique. Il a développé cette idée d'écologie politique. Sa pensée ne se résume pas à ça, mais c'est quand même ce qui est attaché à son nom. Ce qui est lié à son nom, c'est l'écologie politique. Comment... La question la plus difficile pour commencer. Comment vous situez André Gors dans le paysage intellectuel général ?
Écoutez, je crois qu'il a une place à part. Je crois que vos propos liminaires l'illustrent assez bien. André Gors est un personnage dans la pensée intellectuelle et européenne, pas seulement française, est un personnage à part parce que il a lui-même un itinéraire tout à fait hors norme. André Gors, vous avez dit qu'il était philosophe tout à l'heure, mais c'est un autodidacte. C'est quelqu'un qui a élaboré une pensée tout à fait originale, qui certes a un écho pas immédiat, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui est systématiquement été branché sur l'actualité, mais je crois que sa pensée inspire de nombreuses personnes, et en particulier aujourd'hui la pensée des écologistes. On peut dire qu'il est un inspirateur de l'écologie politique, ou un père spirituel de l'écologie politique, parce qu'il a mis en avant à quel point notre système économique était antinomique avec l'écologie politique. Il est venu à l'écologie politique par la critique de la société de consommation, et ce, dès le début des années 60.
Alors, on va commencer par son identité, parce que on dit André Gors, mais il s'appelait pas André Gors. Il s'appelait Gerhard Hirsch, puis Gerhard Horst, puis André Gors, et il a été connu aussi sous son nom de journaliste, de Michel Bosquet. Ça fait quand même quatre identités, et on va l'entendre se définir et se présenter lui-même.
Mon père était juif et ma mère était catholique. Et comme tous les Viennois, comme tous les centres européens, plutôt antisémites par sa tradition familiale. Ce qui fait que je suis né dans une famille où rien de ce qu'on pouvait attendre de moi n'était ce que je pouvais fournir. C'est-à-dire que l'attente des uns comme des autres était une attente que je ne pouvais pas satisfaire. C'est donc par rapport à ma famille, à la culture originelle, aussi bien paternelle que maternelle, en porte-à-faux. Et toujours coupable. Coupable de ne pas être ce qu'on attendait de moi, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Comment dire ? J'étais rejeté sur moi-même. Il n'y avait aucune vérité, aucune attente dont je pouvais dire voilà ce que je dois faire. Ce que je ne pouvais pas. Donc j'étais un fils plutôt soumis à ma mère, qui essayait de correspondre à son attente à elle, tout en sachant que c'était impossible. Et comme elle attendait de moi que je sois un arien viril et germanique, il est évident que ma soumission à elle était exactement le contraire de ce qu'elle pouvait attendre de moi. Et de là vient de ce que j'appelle l'absence d'identité, c'est-à-dire que Je suis né sans image de moi-même. J'ai grandi sans avoir aucune image de moi-même. En plus, ma famille a changé de nom une première fois en 1930, puisque mon père avait un nom qui peut être juif, qui peut ne pas être juif, mais en tout cas, comme il a jugé préférable de changer de nom. Ce qui fait que j'ai même pas une identité nominative, ou nominale. C'est pour ça que je change de nom très facilement. J'ai un nom allemand au départ, et quand j'ai commencé à faire du journalisme en France, c'était en 51, dans un journal qui s'appelle Paris Presse, ils m'ont dit, c'est pas possible que tu signes d'un nom allemand, les Français n'aiment pas les Allemands. J'ai traduit mon nom, Horst, en français. Une des traductions possibles, c'est Bosquet. Alors ouais, on m'a dit, Gérard, il y en a déjà trop, faut que tu changes ça aussi. Alors, j'ai pris Michel. Voilà.
En 1951, Gorz commence dans le journalisme sous le nom de Michel Bosquet, mais auparavant, la grande rencontre de sa vie, ce sera la rencontre avec Jean-Paul Sartre.
Absolument, c'est une figure pour lui presque paternelle. Jean-Paul Sartre avait une vingtaine d'années de plus que lui, et c'est par la découverte de Jean-Paul Sartre qu'il va commencer à forger sa pensée et se former à la philosophie. En s'appuyant sur les textes de Sartre, il lit bien sûr, André Gorz, tout jeune, lit La Nausée, Le Mur, et puis en 1943, il va tomber sur ce monument de la philosophie sartrienne qui est L'Être et le Néant. Mm-hmm. Et c'est à partir de la lecture de L'Être et le Néant qu'il va vraiment essayer de suivre et s'inspirer de la pensée de Jean-Paul Sartre, au point d'ailleurs qu'il cherchera à prolonger la pensée de L'Être néant que André Gorz, à cette époque-là, juge insuffisamment opérationnel. Et puis il présentera d'ailleurs ce texte de 1500 pages à Jean-Paul Sartre, qui à l'époque, c'est à la fin des années 50, est un peu distrait et n'attache pas plus d'importance que ça à l'écriture de ce traité.
À l'époque, Sartre est prépondérant, hein, c'est l'intellectuel français.
À cette époque-là, vous avez raison, Sartre est au sommet de son prestige public, incontestablement. Et c'est d'une certaine manière le fait que Sartre, finalement, ne donne pas véritablement de suite à le traité que vient d'écrire le jeune Gerhard Horst, qui va obliger ce jeune homme à se lancer à nouveau dans un exercice complètement fou et qui va donner des sens 2 ans après à un ouvrage qui, pour le coup, va le révéler, cet ouvrage qui s'appelle Le Traître et qu'il sera d'ailleurs préfacé avec un avant-propos très élogieux d'une quarantaine de pages de Jean-Paul Sartre et qui est le premier ouvrage d'André Gorz, qui est un ouvrage tout à fait étonnant, quelquefois difficile à lire, mais en même temps passionnant parce que c'est une analyse existentielle. Et il cherche par cette méthode à pouvoir s'autoriser à dire « je ».
Sartre, c'était celui auquel je pouvais m'identifier parce que, comme philosophe, il se mettait à penser apparemment à partir de rien. Il ne prenait pas les concepts des autres, il forgeait ses propres concepts. Donc on peut dire que c'est quelqu'un qui part de pratiquement rien pour construire sa pensée, chemin faisant, de façon cohérente. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu chez lui, c'est quelqu'un qui ne se situe pas dans une école et dont les critères ne sont pas des critères reçus, ce sont des critères inventés, fondés, construits. C'est-à-dire pour moi, Sartre, c'était la négation, surtout la négation de tout ce qui était pour moi inacceptable et inassimilable. On a probablement du mal à l'imaginer aujourd'hui, quelqu'un qui était rejeté par tout le monde, avec une hargne et une hostilité qu'on trouve rarement dans l'histoire de la littérature. Il était rejeté comme un pervertisseur de la jeunesse, comme nihiliste, comme ennemi de la classe ouvrière, tout ce qui est rejeté par la droite autant que par la gauche. Donc c'était mon homme, c'était celui que tout le monde rejetait, je pouvais m'identifier à lui. Il était, à sa façon, un exclu dans tout le système des valeurs et dans tout le système culturel ambiant. Alors, quand il est venu en Suisse, invité par une association d'études des lettres, comme il y a des gens qui savaient que j'avais lu tout ce qu'il avait écrit, ils m'ont invité. Après, il y avait un cocktail. Et j'ai accaparé Sartre pendant une heure et demie. Dès que je me suis assis à côté de lui, puis on a parlé interminablement. Il m'a beaucoup séduit et aidé, en un sens, par une vitalité très généreuse. Vous savez, moi, je l'imaginais pas du tout comme ça. Non, puisque sa philosophie de l'époque, c'était une philosophie de l'échec, de l'injustifiabilité, de la culpabilité et de l'échec inévitable qui se terminait, je pense que vous vous souvenez, l'être aimant se termine que de ce point de vue-là, et je reviens tout même, d'être conducteur des peuples, de s'enivrer solitairement. C'est-à-dire que l'ivrogne ou les dictateurs allaient également à l'échec inévitable qui était inscrit dans ce qui était normalement le projet fondamental de l'homme. Alors moi, je m'attendais à un type pour qui, effectivement, tout se vaut, mais négativement, c'est-à-dire que rien ne vaut, et rien ne vaut rien, et tout vaut rien. Et j'ai trouvé quelqu'un d'une grande vitalité qui il remplissait l'espace autour de lui, il le remplissait dangereusement, puisque pour prendre sa cigarette, il levait le coude jusqu'à la hauteur de l'épaule, il donnait donc des coups de coude autour de lui tout le temps, les gens n'osaient plus approcher puisqu'il était tout le temps en train de bouger, et il parlait avec une joie de vivre contagieuse. Nous avons parlé surtout de la méthode régressive-progressive, donc de la façon dont on peut reconstruire une personne et par quelle méthode de questionnement. Et quand j'ai eu terminé donc cette entreprise d'auto-compréhension et d'auto-remaniement, d'auto-changement, je lui ai dit, vous ne voulez pas me faire une préface à ça? Il a dit, écoutez, si je vous fais une préface, ça va vous marquer. Vous serez compromis avec moi pour toujours. Alors, je vous fais une proposition honnête, dit-il. Je vous fais pas de préface, mais je vous fais une critique dans un journal littéraire. Alors, je dis, c'est pas une critique. Vous me faites une préface et je serai compromis pour toujours avec vous. Je demande de rien d'autre. Il m'a fait une préface. Il a mis le temps. C'est une très belle chose. Une des très belles préfaces, un des très beaux textes qu'il a fait. Mmh. Oui, oui. Si vous voulez vraiment arriver à penser comment vous êtes devenu ce que vous êtes et comment vous pouvez devenir quelqu'un qui est capable de dire ça c'est moi. Mais ce n'est pas le conditionnement, ni l'éducation, ni la socialisation, ni l'ère du temps qui me fait penser ça, c'est moi qui le pense. Eh bien, il faut d'abord il faut se dépouiller de tout, ce qui ne m'était pas difficile, mais surtout il faut être sans aucune complaisance envers les sédiments que chacun charrie avec soi et qui sont des empreintes qu'il a reçues, souvent sans comprendre pourquoi et sans s'en apercevoir, de son histoire et de son enfance. Et du moment que vous savez que ces empreintes existent, vous pouvez non pas les effacer, vous pouvez vous en servir. J'ai reçu beaucoup de lettres de gens qui ne me ressemblent en rien, c'est-à-dire qui ne sont ni bâtards juifs ariens, ni centre-européens, ni voilà, qui ont dit c'est moi, je me suis reconnu. Bien sûr qu'ils ne sont pas reconnus dans tout, mais ils sont reconnus dans le problème. Quel problème? Comment est-ce qu'on peut devenir quelqu'un qui est capable de dire je?
Échapper au déterminisme et au conditionnement, non pas les effacer mais s'en servir. C'est une pensée très ancienne, hein. Il n'y a pas quelque chose de nouveau là, Christophe Fourel.
Il n'y a pas quelque chose de nouveau. En même temps, je crois que André Gors, à l'occasion de la rédaction du Traître, a poussé l'exercice très loin. Et c'est ce qui fait que ce texte est étonnant. Parce qu'il y a une dimension à la fois psychanalytique, c'est-à-dire il revient sur les conditions de son enfance et un certain nombre de traumatismes. Mais en même temps, Gors ne s'en tient pas simplement à l'aspect purement psychanalytique des choses. Il essaye de resituer ça dans l'histoire, avec un H majuscule, si vous voulez. Il essaie de rassembler tous les éléments qui font qu'il est à cette place, à ce moment-là, et pourquoi. Et c'est à partir de toute cette analyse à la fois historique, et il se base beaucoup également sur l'œuvre de Marx dès le début pour comprendre sa situation, sa propre situation, et effectivement à partir de sa connaissance de la psychanalyse qui parvient à effectivement faire ce remaniement de sa propre personne et réussir cette conversion morale selon l'acception existentialiste et qu'il arrive à faire effectivement ce remaniement avec l'aide de Jean-Paul Sartre.
André Gors, sa voix, la morale de l'histoire.
Donc j'ai passé à autre chose, puisque, ayant compris que la solution de vos problèmes existentiels ne sont jamais en vous-même, dans le remaniement de vous-même, mais dans le dépassement de vous-même dans une action qui soit reconnaissable par les autres, c'est-à-dire qui laisse des traces objectives, les questions que je me suis posées étaient des questions, mettons, éthico-politiques. J'ai commencé à m'expliquer avec Marx et le marxisme. Et c'est l'ouvrage suivant, qui s'appelait La morale de l'histoire, qui n'est pas très bon, mais qui contient de bonnes choses, en particulier des morceaux de Théorie de l'aliénation, l'aliénation dans la consommation, dans le travail bien sûr, et l'aliénation par la rationalité économique. Ce livre, il a eu des lecteurs chez les étudiants communistes. Mais j'avais toujours été lié à l'extrême gauche, mais à une extrême gauche insoumise, c'est-à-dire non conformiste, qui n'aimait pas ce dogmatisme du Parti communiste français. Non, je ne pouvais pas m'entendre avec un parti, mais j'estimais encore à l'époque que le Parti communiste français, ça valait rien, mais qu'il fallait changer. Moi donc, j'étais quelqu'un qui estimait que le marxisme et la problématique de l'exploitation dans le marxisme était une fausse piste, et que le radicalisme ouvrier, que le radicalisme subversif contestataire était une question d'oppression et d'aliénation beaucoup plus que d'exploitation économique. Ça, c'était la thèse que j'avais défendue dans ce livre. Mais c'est des choses qu'on trouve chez Marx. Certes, c'est important. Il y a les questions salariales, les questions de redistribution, de la plus-value, de lutte contre l'exploitation et ses méthodes. Mais si le mouvement ouvrier devient hégémonique, ça ne sera pas à cause de ça. S'il devient hégémonique, ce sera parce qu'il sera porteur d'une idée et d'une pratique d'émancipation des gens de toutes les formes d'oppression, d'humiliation, d'instrumentalisation et de mutilation que leur impose la division du travail, la technicisation et l'expropriation dont ils sont l'objet, l'impossibilité de se reconnaître en tant qu'agent dans cette pratique qu'est le travail.
La voix d'André Gors, en 1991, sur France Culture, on a voulu faire entendre à nouveau cette voix. On avait promis au départ qu'on allait parler d'écologie. Quel lien vous faites entre ce qui est dit là, ce que dit Gors, cet ouvrage qu'il évoque, La morale de l'histoire, et ensuite sa pensée sur l'écologie, je le rappelle, pensée sur l'écologie politique et anticapitaliste?
Alors effectivement, La morale de l'histoire est l'ouvrage qui fait paraître en 1959. Et comme il le dit dans les toutes premières pages de cet ouvrage, André Gors explique que il vient de traverser l'œuvre de Marx, c'est son expression. Mais en même temps, il est totalement insatisfait de la façon dont était relayée la pensée de Marx à l'époque. Et dans La morale de l'histoire, effectivement, André Gors commence à élaborer une théorie de l'aliénation et il essaie de montrer comment et par quelle voie on peut à la fois s'émanciper du travail et s'émanciper dans le travail. Et là, déjà, on voit poindre l'écologie politique chez André Gors, curieusement, parce que André Gors avait une conception de l'écologie qui était d'abord l'écologie au sens du milieu de vie, déterminant de la qualité de vie. Donc, il ne va jamais escamoter la question du travail des hommes dans leur vie quotidienne. Et puis, en même temps, dans cet ouvrage, il va faire l'analyse de la société de consommation, parce que André Gors pense toujours l'homme à la fois producteur et donc travailleur, mais également l'homme consommateur, et d'essayer de comprendre en quel sens il est justement aliéné dans un système économique qui le domine. Et donc c'est quand même le socle de base de sa pensée d'écologiste qui est en train de naître à ce moment-là.
Alors, il va se lancer ensuite dans une critique du syndicalisme qui va être diversement appréciée. Il faut quand même se souvenir que dans les années 60, début des années 70, c'est le plein emploi, et il y a une critique de l'aliénation dans le travail. Hein, on a « Perdre sa vie à la gagner », on a des chansons, on a des tas de choses sur « Les prisonniers du boulot font pas des vieux os ». Le travail est remis en question. 30 ans plus tard, aujourd'hui, la question, c'est le travail, le chômage partout. Et la question aussi, c'est qu'il n'y a plus assez de travail pour tout le monde. C'est au moins ce que pense Gorce, il y a 20 ans, et ce que pensent pas mal d'autres observateurs, à commencer par ceux qui n'ont pas de boulot. Là, on a basculé. Et là, il se lance dans une critique du syndicalisme qui date de 1991.
Il y a un problème de régression syndicale qui tient à un très grand nombre de facteurs. Ça tient au fait que de moins en moins de gens arrivent à s'identifier à leur travail. Toute la classe ouvrière classique, pour ne pas dire traditionnelle, considérait que le travail est source de puissance, sinon de pouvoir. C'est-à-dire que le travailleur, par sa fonction productive, à la fois technique et économique, détient un pouvoir dans la société qu'il devrait arriver à traduire en termes politiques. Ce pouvoir technique, il n'y a aucune raison qu'il ne le rende pas dominant en tant que classe dans la société. Et c'était vrai aussi longtemps que les industries qui employaient le plus de main-d'œuvre étaient des industries essentielles dans une économie. Par exemple, les mineurs, les sidérurgistes, les chaudronniers, les ouvriers du bâtiment étaient les héros de la production. Mais ça n'est plus le cas. La structure industrielle a complètement changé. L'industrie dégage de la main-d'œuvre au lieu d'en recruter. Et le travail n'est plus source de pouvoir, même dans l'industrie. Parce que le travail a été beaucoup plus étroitement fonctionnalisé qu'à l'époque où il y avait des mineurs, des sidérurgistes, etc., etc., qui avaient un savoir-faire irremplaçable, qui avaient des trucs professionnels qui ne s'apprenaient pas. Et à partir du moment où vous standardisez les actes productifs, les actes techniques, et qu'ils deviennent réalisables par n'importe qui après une formation de quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois ou mieux. Donc l'ouvrier devient interchangeable. Il a beaucoup de mal à s'identifier à sa tâche. Et s'il s'identifie à sa tâche, cette identification n'est plus pour lui une source de pouvoir. Son pouvoir ne peut renaître que sur un autre plan que celui du travail, qui est celui de la contestation politique. Premièrement, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de produire comme nous produisons? Et deuxièmement, est-il vraiment nécessaire de produire ce que nous produisons? Et la réponse est généralement négative. Il y a une contestation professionnelle qui entre dans l'industrie par le biais non plus du syndicat, mais par le biais des citoyens. Parce que ces ouvriers agissent comme citoyens et non plus comme syndiqués. Et cette question et c'est central puisque le problème écologique est central et que jusqu'à présent, très peu de syndicats ont réussi à inscrire le problème de la conversion écologique dans leur programme de politique syndicale. Parce que dans la mesure où ils défendent les intérêts professionnels d'ouvriers qui sont censés s'identifier à leur travail, parce que l'éthique du travail c'est ça, ils ne peuvent pas. On ne peut contester les finalités et les modalités de la production que si on prend du recul par rapport à cette production. C'est l'idée d'un changement de paradigme. C'est le plus de savoir est-ce qu'on est bien payé et bien traité dans ce qu'on fait. La question est-ce qu'on doit faire ce qu'on fait? Ça devient finalement une question morale, une question éthique. C'est un chapitre qui annonce l'écologisme, si vous voulez, la critique d'un modèle de consommation qui cherche à satisfaire des besoins avec le flux maximum de marchandises aussi sophistiquées que possible. Vous avez une façon bouddhiste de satisfaire les besoins, c'est de les satisfaire au moindre coût. avec la moindre quantité, la moindre dépense de travail, la moindre destruction de l'environnement. Et puis vous avez une méthode qui est celle caractéristique de la civilisation capitaliste, qui est de dire les besoins sont là pour permettre de faire tourner la machine et de produire de plus en plus en réalisant de plus en plus de plus-value, c'est-à-dire de profit sur ce qu'on produit. C'est qu'il faut toujours ajouter du superflu et du luxe au nécessaire. Il faut vendre le nécessaire sous l'image du luxe et du superflu.
Christophe Fourel, comment cette critique du syndicalisme a-t-elle été accueillie en général et en particulier par les syndicalistes à l'époque ?
Écoutez, André Gors est connu aussi pour être un philosophe du travail et un philosophe du sens. C'est vrai qu'il a été, tout au long de son œuvre, très proche du monde ouvrier, très proche du monde syndical. Il a écrit en 1964 un ouvrage tout à fait fondamental dans son œuvre qui s'appelle « Stratégie ouvrière et néo-capitalisme ». Mais quelquefois, sa pensée très originale l'a mis en porte-à-faux avec le syndicalisme, qui finissait par se dire que la pensée d'André Gors était en train d'un petit peu scier la branche sur laquelle, effectivement, le syndicalisme était assis. Je crois que Gors mettait l'accent sur le fait que, dans le système capitaliste, les travailleurs, les personnes, sont de plus en plus confrontés à une difficulté d'identification à leur travail. Et il a, notamment en 1980, fait paraître un ouvrage qui était assez connu d'ailleurs, parce qu'il avait fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle « Adieu au prolétariat » et justement qui a suscité beaucoup des débats avec le monde syndical, en particulier Edmond Maire, qui était à l'époque le leader de la CFDT, dans la mesure où André Gors avait identifié dans cet ouvrage ce qu'il appelait la non-classe des non-travailleurs, c'est-à-dire pas seulement les gens qui sont exclus du travail, mais ces gens qu'il considérait comme de plus en plus nombreux et qui étaient ceux qui ne pouvaient pas s'identifier à leur travail. Mmh. Et on voit bien que le système économique aujourd'hui, qui parcellise les gens, qui spécialise les gens, ou qui prive véritablement les personnes de leur propre savoir-faire professionnel, fait que les travailleurs, les salariés, ne peuvent pas se reconnaître pleinement dans leur travail. Et on voit bien que, en plus de ce phénomène, peu à peu, le travail salarié à plein temps s'est complètement délité, puisque il y a, à côté d'un chômage de plus en plus massif, plus en plus de gens qui sont au travail de façon intermittente. Même en ayant un travail, ce n'est pas la garantie de sortir de la pauvreté, puisque s'est développé le phénomène de ce qu'on appelle aujourd'hui les travailleurs pauvres. Donc on voit bien que le monde du travail s'est complètement délité. Et d'une certaine manière, cette actualité, cette réalité, donne un petit peu raison à André Gors dans sa capacité à voir que justement, c'est pas qu'il n'y a plus de travail qu'il voulait dire, mais la forme emploi du travail, c'est-à-dire au sens salarié, à temps plein, 35 heures par semaine et pour une vie entière, est quelque chose qui est en train d'être complètement dépassé.
Il était journaliste, on l'a dit en commençant. Quelle est la part du journaliste et du philosophe dans ce travail-là, sur sa réflexion sur le syndicalisme ?
Alors, il était effectivement journaliste. Il a commencé sa carrière comme journaliste à Paris Presse en 1951, puis très vite, il est rentré en 1955 à l'Express, puis ensuite, en 64, il est devenu un des cofondateurs du Nouvel Observateur. Mais c'est sous son pseudonyme de Michel Bosquet qu'il est connu comme journaliste, en fait. Et André Gors est son pseudonyme de philosophe. Philosophe du sens, du travail, de la pensée post-capitaliste. Mais, comment dire, son travail de journaliste et d'observateur de la réalité sociale a toujours servi le philosophe André Gors pour le théoricien.
Quel genre de papier il faisait ?
Alors, Michel Bosquet, en tant que journaliste, très vite a été spécialisé sur les rubriques économiques et sociales. Simplement, il a laissé beaucoup dans les esprits la mémoire de quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux problèmes écologiques très tôt, et puis surtout de la question du nucléaire. André Gors a laissé derrière lui des dizaines et des dizaines de papiers sur le système nucléaire.
Dans les années 60
le premier article qu'il a écrit sur le nucléaire date de 1960. 1963. C'est un article qu'il a écrit pour l'Express et qui était une enquête sur l'usine de Pierre Latte, qui est l'usine qui fournit en fait le combustible pour les centrales nucléaires aujourd'hui. Donc très tôt, il s'est intéressé effectivement à l'industrie nucléaire et il a critiqué énormément.
Dès 1963.
Dès 1963.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
On continue avec vous, Christophe Fourel. Au début des années 70, il y a un journal écologiste qui apparaît, qui s'appelle Le Sauvage. Après La Gueule Ouverte, auparavant il y a eu La Gueule Ouverte de Charlie Hebdo, et Le Nouvel Observateur, je crois que c'est ça, ou L'Observateur, sort Le Sauvage, c'est le même éditeur.
Je ne sais pas si c'était le même éditeur, en tout cas c'est vrai que c'était un mensuel qui avait été créé par Alain Hervé, et c'est un mensuel, le Sauvage, auquel André Gorce a beaucoup contribué parallèlement à son activité de journaliste au Nouvel Observateur. Parce que à cette époque-là, si vous voulez, André Gorce cherche par tous les moyens, par tous les canaux possibles, à diffuser un petit peu la pensée de l'écologie politique qu'il est en train de forger. Et il se trouve également que c'est à cette même période-là, au début des années 70, qu'il va faire la rencontre d'un autre personnage après Jean-Paul Sartre qui va beaucoup compter pour l'évolution de sa pensée, qui est la personne de Ivan Illich, qui est également un penseur incontournable aujourd'hui quand on cherche à réfléchir aux questions de l'écologie politique. Il se trouve que le hasard a fait que Ivan Illich était, comme André Gorce, né à Vienne en 1926, c'est-à-dire 3 ans après André Gorce, mais lui a un parcours très différent qui va l'amener ensuite au Mexique, où il va à Cuernavaca monter un centre d'information et il va développer sa pensée. Et on sait très bien aujourd'hui qu'un certain nombre de notions qu'on utilise dans la vie courante, par exemple celle de contre-productivité est une notion élaborée par Ivan Illich que André Gors utilisera puisqu'il a été avec d'autres comme Jean-Pierre Dupuis ceux qui ont introduit la pensée d'Ivan Illich en France et qui est une pensée importante pour l'écologie politique effectivement.
Ce qui se passe quand même c'est qu'on a l'impression qu'il est plus radical que ceux qui se réclament de lui. Gors, je suppose les Verts aujourd'hui se réclament de lui, mais enfin lui il est sur une pensée encore une fois radicale en matière d'écologie et absolument anticapitaliste. Il trouve qu'il y a une incompatibilité totale entre l'écologie telle qu'il l'entend, pas seulement la nature et l'environnement, mais aussi la société, aussi le social et le capitalisme.
Oui, effectivement.
Et ceux qui se réfèrent à lui, je pense au Nouvel Observateur, etc. ne sont pas anticapitalistes.
Écoutez, je pense que enfin vous avez raison sur le fait que André Gors apparaît toujours plus radical que ceux qui ont suivi sa pensée. Simplement, j'ai l'impression que les choses sont en train d'un petit peu changer et à ce niveau-là, si on regarde du côté des politiques et c'est là où je trouve ça intéressant, vous avez des jeunes femmes qui revendique clairement que Gors est pour elle un inspirateur. Et parmi elles, vous avez aujourd'hui Cécile Duflot, mm-hmm. qui est la leader des Verts, qui le dit très clairement. Mm-hmm. Et puis vous avez des gens comme Clémentine Autain, qui effectivement fait partie plus d'une mouvance de la gauche radicale. Et puis plus récemment, après le drame de Fukushima, vous avez des gens comme Aurélie Filippetti qui, au sein du Parti socialiste, essaie de faire évoluer le Parti socialiste sur la question du nucléaire. Alors je ne sais pas si elle revendiquerait une sorte de filiation avec André Gors, mais il n'empêche que son attitude, qui cherche à faire évoluer le Parti socialiste sur cette question-là, bah, peut d'une certaine manière être raccrochée à la pensée d'André Gors.
Une politique écologique est nécessairement une politique anticapitaliste, une politique qui cherche à limiter le champ de la consommation marchande et des échanges marchands.
On continue avec André Gors, sa voix, son œuvre. Il fait une critique, entre autres, de la culture.
Alors, du moment qu'il existe une demande potentielle qui permet de rentabiliser une industrie, par exemple l'industrie des embryons ou le commerce d'organes, en vertu de quoi allons-nous y opposer si nous posons que le critère d'évaluation unique et suprême, c'est la rentabilité, l'expansion du commerce, de l'industrie et la création d'emplois. Mais ce n'est pas des comités d'éthique qu'il faut charger de ça. Il faut nous rendre compte que nous vivons dans une civilisation qui a détruit la culture, qu'il a détruit par la spécialisation de tout et de n'importe quoi, la technicisation de tout et de n'importe quoi, et l'évaluation de tout en fonction de critères économiques. Nous ne sommes jamais allés aussi loin potentiellement, dans la soumission de la vie et du sens de la vie à des critères totalement extrinsèques, c'est-à-dire utilitaires et technicistes. Donc ce ne sont pas des comités d'éthique qui vont nous sortir de l'auberge, parce que quel est le pouvoir d'un comité d'éthique? Il est nul. Ils donnent des avis et puis on en tient compte ou on n'en tient pas compte. Le symptôme de cette crise, ce qu'on appelle la crise du sens, la crise d'orientation et l'expression, c'est que nous n'avons plus de culture du quotidien. C'est que les gens ne sont plus chez eux dans leur vie, ils ne sont plus chez eux dans le monde qu'ils habitent, qui ne sont plus chez eux dans leur travail, ils ne sont chez eux nulle part. Et contre cela, le mouvement écologiste est une des principales formes de rébellion. Le mouvement écologiste est avant tout un mouvement des gens pour se réapproprier leur vie et leur milieu de vie et pouvoir le soumettre à leurs propres décisions, à s'en rendre maître de nouveau.
Voilà la définition, là c'est clair, la définition qu'André Gors donnait de l'écologie.
Oui, ce qui est intéressant, je trouve, dans cet extrait, c'est que André Gors dit à quel point, effectivement, dans notre société, dominée par la logique économique, aujourd'hui, eh bien, la culture a été effectivement détruite. Au sens où les choses sont tellement parcellisées, que comme il le disait lui-même, dans notre quotidien aujourd'hui, nous produisons rien de ce que nous consommons et nous ne consommons rien de ce que nous produisons. Donc l'individu producteur travailleur et l'individu consommateur sont complètement séparés et il n'y a plus d'unité de la personne. Et c'est ce qui lui fait dire qu'aujourd'hui, dans notre société, qui est en quête de sens, qui est en quête d'orientation, elle est en quête de sens, elle est en quête d'orientation parce que elle a perdu la capacité à produire une culture du quotidien, où les gens, comme il le dit lui-même, se sentent chez eux quelque part, se sentent dans un milieu de vie qui leur est naturel, un milieu de vie où la qualité de la vie peut primer. Et aujourd'hui, notre société fait que elle favorise une forme de repli sur soi ou un repli sur la consommation individuelle, justement pour être là pour contrebalancer les insatisfactions que les gens ont, que ce soit dans le cadre de leur travail ou dans le cadre de leur environnement immédiat qui apparaît comme quelque chose qui n'a plus de sens.
Y compris la consommation d'objets ou de produits bio ou à prétention ou à présentation écologiste. On a le greenwashing, on a le green business qui se sont développés, c'est-à-dire que la récupération de l'écologie est en marche. Là aussi, la pensée de Gors semble utile en ce qu'elle est une critique radicale du productivisme et du capitalisme.
Absolument. Et je crois justement que la pensée radicale, comme vous dites, d'André Gors, c'est justement de montrer à quel point il ne peut pas y avoir de récupération de l'écologie par le capitalisme. Ces deux choses-là sont absolument antinomiques. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est la soumission de toute la vie à la logique économique et qui est en train de démontrer l'impasse dans laquelle nous sommes rentrés et que si nous ne changeons pas complètement de logique de façon radicale, eh bien, effectivement, le capitalisme débouchera sur une forme de barbarie. Il disait dans ses derniers écrits, dans ses derniers moments de sa vie, que selon lui, nous étions rentrés dans une phase où le capitalisme était en train de s'effondrer avec une forme de bifurcation, soit cette sortie du capitalisme se fera dans une logique barbare, soit elle se fera de façon civilisée et que d'une certaine manière, l'orientation que nous pourrons prendre, elle nous appartient à nous, collectif, société, dans la mesure où on peut effectivement changer ce paradigme et empêcher la logique économique aujourd'hui de soumettre toutes les sphères de la vie à sa propre logique qui est une impasse.
Et c'était André Gors, un penseur pour le 21e siècle, nouvelle version d'une émission préparée par Franck Aderer, diffusée pour la première fois le 9 juin dernier. Merci à Christophe Fourel, qu'on retrouvera demain autour d'André Gors pour la seconde partie de cette émission. Les archives et la voix d'André Gors proviennent d'une série d'émissions de France Culture qui date de 1991, il y a tout juste 20 ans. Dans les archives de France Culture, vous pouvez retrouver d'autres émissions sur André Gors. Merci enfin à Catherine Louis de Lina. Toute cette semaine et la semaine prochaine, pour la trêve des confiseurs, là-bas, si j'y suis, vous présente les meilleurs moments de l'année de l'émission dans une nouvelle présentation. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission, là-bas, si j'y suis, et bien sûr, sur le site la-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Pascal Baldassari et Cédric Lalanne, réalisation Franck Aderer, assisté de Grigory Salomonovitch. Vous pouvez dès maintenant laisser vos messages sur le répondeur de la basse, j'y suis au 01 56 40 37 37.
L'invention de Hugo Cabret, le livre de Brian Selznick qui a inspiré à Martin Scorsese son premier film en 3D avec France Inter. L'histoire incroyable d'un jeune orphelin en quête d'un mystérieux secret dans le Paris des années 30. Un conte original qui mêle des dessins de l'auteur et des images de Georges Méliès, un hommage au 7e art. L'invention de Hugo Cabret de Brian Selznick, un livre France Inter.
On est à Londres.
C'est là où tu veux aller? C'est de l'autre côté. Ici, c'est le Havre.
France Inter présente Le Havre, le nouveau film d'Aki Korismaki avec André Vims et Jean-Pierre Darroussin.
Nous cherchons un petit garçon noir.
Avec l'aide de ses voisins, Marcel Marx décide de cacher le jeune clandestin recherché par la police. Le Havre, un film plein d'humanité et de drôlerie, prix Louis Deluc, meilleur film français de l'année, actuellement au cinéma. Retrouvez Aki Korismaki le 25 décembre à 14h05 dans Cosmopolitaine.
Il est 16h et vous écoutez France Inter. Et le flash d'information est présenté par Oana Favenec.
Et les négociations se poursuivent cet après-midi à Roissy, en ce sixième jour de grève des agents de sûreté dans les aéroports. Ce midi, la CGT est sortie de la séance en parlant de négociations dans l'impasse, le patronat refusant de parler d'une quelconque augmentation de salaire, et c'est la principale revendication des grévistes. Cet après-midi, un représentant du gouvernement devait rejoindre patron et syndicats. Le gouvernement qui s'implique dans le conflit et promet que si la situation ne se débloque pas, des gendarmes et policiers remplaceront les grévistes. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a sommé le gouvernement d'intervenir pour assurer les départs à la veille de Noël. Aujourd'hui, le trafic est très peu perturbé dans les aéroports. Des retards de 15 à 30 minutes sont à signaler à Roissy-Charles de Gaulle. 600 intérimaires se retrouveront au chômage au printemps à Mulhouse. PSA Peugeot Citroën veut y arrêter une chaîne de montage le 3 mars prochain. Ces chiffres s'ajoutent aux 6000 suppressions de postes déjà annoncées par le constructeur automobile en Europe. Le nouvel observateur rachète rue 89. Pierre Aski, le fondateur et président du site internet d'information, parle d'une alliance qui garantit à rue 89 son indépendance éditoriale totale. On ne connaît pas le montant de la transaction. Une femme de 35 ans a été arrêtée dimanche, apprend-on aujourd'hui, à Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes, après la découverte d'un corps de bébé dans son congélateur. La mère explique qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte et qu'elle a accouché dans sa baignoire. Le cadavre du bébé mesurait 62 cm, laissant penser qu'il avait entre 2 et 3 mois lors de sa mort. La Turquie tente tout pour faire revenir la France sur sa position. Le ministre des Affaires étrangères turc se dit surpris aujourd'hui par la décision de Paris, celle de voter demain à l'Assemblée nationale une loi pénalisant la négation du génocide, car le chef de la diplomatie affirme que Nicolas Sarkozy avait promis au Premier ministre turc d'abandonner ce projet. Aujourd'hui, un ministre turc menace également la France de boycotter les produits français. Deux responsables politiques rwandais condamnés aujourd'hui à l'emprisonnement à vie par le tribunal pénal international pour le Rwanda pour leur rôle dans le génocide de 1994. Ils étaient à l'époque présidents et vice-présidents du mouvement révolutionnaire national pour le développement. Le démantèlement de la centrale nucléaire de Fukushima prendra au moins 40 ans. C'est le gouvernement japonais qui l'annonce aujourd'hui. Il faudra d'abord, d'ici 2 ans, retirer les barres de combustible usées des piscines avant de commencer l'extraction du combustible fondu. Cette dernière opération pourrait prendre 25 ans. Des réactions politiques variées après l'annonce par la presse ce matin de la venue de David Beckham au PSG et de son salaire 800 000 euros par mois plus avantages en nature. On peut le défendre, comme Frédéric Lefebvre ce matin sur notre antenne. Le secrétaire d'État à la consommation met en balance salaire mirobolant et carrière très courte des footballeurs. Jean-Marc Ayrault, conseiller du candidat socialiste, parle d'instaurer un salaire maximum, tandis que la réaction d'Axel Kahn est plus catégorique. Le candidat PSG aux législatives a lui déclaré « Je m'en tamponne ». Vous écoutez France Inter, il est 16h passé de 3 minutes.
Tous les dimanches à partir de midi, 3D, le journal de Stéphane Paoli.
Dans 3D dimanche, la rumeur d'une année qui s'achève. Les printemps arabes qui sont des révolutions, Fukushima qui interpelle le nucléaire, Wikileaks qui met les coulisses du monde au premier plan. 2011 dans 3D, 3D dans 2011.
3D, le journal de Stéphane Paoli. Dimanche à partir de midi. France Inter. La différence.
Et on retrouve tout de suite Frédéric Lodéon pour Carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Roanne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour.
Bonjour à tous. Débat qu'il y en a beaucoup, beaucoup, j'allais dire partout, non quand même pas, enfin en Allemagne il y avait beaucoup de ces bacs musiciens pour la plupart. Johann Bernhardt par exemple, né en 1676 et qui a été maître de chapelle à Francfort après le départ de Telemann qui avait des engagements un peu partout comme Beckham un petit peu. Et moi je vous propose d'entendre tirer une ouverture en mi mineur pour cordes, on peut traduire tout de suite par une suite, hein, parce que c'est la partie pour le tout. On a souvent appelé les suites des ouvertures parce qu'elles comportent une ouverture au début. Mais enfin bon, voilà, je vous propose simplement, c'est la saison, les plaisirs, et c'est écrit, l'indication de tempo, sous la plume de Bernhard Bach, vitement. Eh oui, pourquoi pas. Les plaisirs, vitement, c'est écrit comme ça, de Johann Bernhard Bach, et interprété par le Bach Concentus. Voici Telemann, donc le compositeur certainement le plus connu en Allemagne, enfin en tout cas d'origine allemande lui-même. Et les Italiens les connaissaient aussi, mais bon, c'était lui le plus demandé, Georg Philipp Telemann. Et il a écrit un passe-temps, alors l'orthographe évidemment un petit peu approximative, mais enfin c'est déjà pas mal qu'il écrive à peu près en français, passe-temps, il écrit T-E-N-S à la fin, mais quand même, il arrive va noter le tempo plus correctement que Bernhard Bach, puisqu'il écrit vivement. Passe-temps, oui, passe-temps, on passe aussi les jambes dans cette petite danse, finalement. C'est rare qu'on écrive ce terme-là, passe-temps. C'est tiré d'une ouverture en fa majeur pour cordes de Georg Philipp Telemann, qui a été le maître de chapelle de Johann Bernhard Bach, qu'on a entendu auparavant, puisque ils étaient tous les deux à Eisenach, ville de naissance de Jean-Sébastien Bach. Comme quoi, voilà, le savoir se transmet beaucoup. Et Jean-Sébastien Bach, lui-même, a copié plusieurs œuvres de son parent, Johann Bernhard. Et voilà, on n'avait pas peur de prendre exemple sur les autres en ce temps-là. C'est toujours bon. D'ailleurs, aujourd'hui, on a toujours ces sources, et de plus en plus, parce que les maisons de disques nous gâtent en ressortant ces auteurs quelquefois un peu délaissés. Nous avons entendu de nouveau le Bach Concentus, dirigé par Ewald de Meyer. Et Johannes Brahms, lui aussi, s'est inspiré des auteurs, quelquefois des auteurs anonymes, c'est-à-dire de cette musique du folklore dont on ne peut pas déterminer qui l'a écrite. Et quelquefois, on a retrouvé ceux qui ont inspiré, par exemple, les danses danses hongroises. Les danses hongroises de Brahms, on a pensé que c'était une invention comme ça, purement brahmsienne, et pas du tout. Quelquefois, il a repris des thèmes, comme par exemple pour la sixième, elle est pas calquée, mais enfin elle est quand même nettement inspirée d'un certain Bouquet de roses qui avait été composé par Adolf Nittinger.
Thank you.